Bonjour à tous, vous allez bien? Ouais. Ben moi aussi. Alors je suis toujours ravi de pouvoir vous présenter un message, mais c'est jamais facile parce que avoir un message à communiquer, ça demande, d'avoir des lumières, d'être un tout petit peu éclairé par Dieu. Mais dans ce domaine, c'est pas facile parce que les semaines se succèdent, on a des soucis, on a des activités. Essayer de trouver un moment pour se poser spirituellement, c'est vraiment très compliqué. Mais il se trouve que dans mes méditations ces derniers jours, j'ai eu l'aide de Dieu et donc j'ai trouvé un sujet très intéressant pour moi déjà. Et je me suis dit que cela pourrait vous intéresser. Alors le titre de ce message, c'est une révélation extraordinaire du nom de Dieu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu ce chapitre de la Bible, le chapitre 3 du livre d'Exode. Et je ne sais pas comment, je lis des versets comme ça, de façon un peu aléatoire. Et je suis tombé dessus. Je me suis dit, il faut y revenir absolument. Souvent, nous avons vu des films concernant la vie de Moïse. Tout le monde a regardé au moins un film dans sa vie. En tout cas, lorsque j'étais jeune, ça se faisait beaucoup. Et je me suis dit, c'est vraiment très important de pouvoir revenir sur la révélation du nom de Dieu. Je pense qu'il y a un passage dans l'histoire biblique, et celui-là, qui marque le fait que Dieu s'est révélé en donnant son nom. Et on doit vraiment s'arrêter pour pouvoir saisir toute l'importance, toute la richesse de cette révélation. Est-ce que vous êtes prêts? Très bien, alors je vais commencer par une lecture d'une partie du passage, du chapitre 3 du livre d'Exode, et puis après on va démarrer. Alors Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Vous y êtes ? Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Déjà, c'est extraordinaire, ça. Un buisson en feu, mais il n'y a pas de l'oxydation, ça brûle pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Donc c'est assez solennel hein, ce moment-là. Quand on essaie de se transposer par l'imagination dans cette situation, on se dit « il s'est passé quelque chose ». Ça doit être impressionnant en tout cas, c'est très solennel. Dieu parle de façon solennelle à ce moment-là. Je passe le verset 7 et 8 et j'en viens au verset 9. Voici les cris d'Israël, le peuple de Dieu, sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Le peuple d'Israël, pour ceux qui ne le sauraient pas, était captif en Égypte à ce moment-là. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. J'aime bien sa répartie. Qui suis-je, vous voyez? Il a une certaine spontanéité et une certaine vérité. Il sait qui il est, donc qui suis-je? Il n'était rien, il n'était plus rien. Il était prince, il est devenu berger. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et là, c'est le passage le plus important. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? C'est intéressant, ça aussi. Moïse, je trouve qu'il est affûté. Vraie bonne question. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Ce nom, c'est Je suis. Je suis celui qui suis. » Amen. Je suis assez ému parce que, quand bien même ce serait une révélation reçue il y a des milliers d'années, malgré tout, ça a une résonance. Hein, aujourd'hui, c'est comme un tonnerre hein, dans notre esprit. Quand on reçoit ça, on se dit, mais dis donc, c'est pas de la rigolade, c'est très profond. Alors, on va commencer par la première partie. On va essayer de décortiquer un peu, mais rapidement, cette affirmation de Dieu du « Je suis ». Alors, je suis allé regarder les différentes traductions qui sont présentées là. Alors, « Je suis celui qui suis », c'est celle qui revient le plus souvent. Vous pouvez regarder, hein, sur 15 traductions, c'est celle qui est la plus récurrente. « Je suis celui que je suis ». Je suis celui, je suis qui je suis. Ça, c'est la Bible en français courant. Je suis qui je suis. Ça donne une autre acception également de, je dirais, en termes de sens. Je suis celui qui est. Ça, on le voit un peu moins souvent dans les traductions. Alors, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, je suis celui qui suis? Alors j'ai essayé de traduire moi, essayer de comprendre moi. Donc, ce que je vais vous dire là, ce n'est pas la Bible, c'est ma façon d'essayer de comprendre cette affirmation. Alors je me suis dit qu'on aurait très bien pu dire, on aurait très bien pu comprendre, celui que je suis, c'est je suis. Celui que je suis, c'est je suis. Je suis la personne que je suis. Je suis l'éternel présent. Je suis, répété deux fois, ça veut dire je suis, c'est le présent, n'est-ce pas? Donc, je suis l'éternel présent. Je suis éternellement présent. Ça aurait pu aussi coller. Je suis éternel, tout simplement. Je suis celui qui est éternel. Vous voyez, on peut aller loin comme ça, hein, mais c'est intéressant quand même. Je suis l'être invariable et immuable. Parce que quand vous êtes au présent et que vous l'êtes éternellement, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un être immuable. Il n'y a pas de changement en vous, il n'y a pas d'ombre de variation. Je suis l'essence de la vie. Je suis l'essence de l'existence. Je suis l'essence de l'être. Je termine avec ça. Et donc, on aurait pu encore décliner « je suis qui je suis » autrement. Mais c'est très intéressant, toutes ces versions-là, celles-ci sont de moi, hein, c'est moi qui essaie de voilà. Mais c'est intéressant parce que ça nous donne plusieurs dimensions, enfin ça nous offre une façon de voir cette déclaration du Seigneur de différentes façons. Et je trouve ça vraiment passionnant. Donc, nous avons donc le point de départ de notre petite réflexion, qui sera courte hein, aujourd'hui. Je pense que c'est déjà suffisamment intense. Eh bien, à présent, je vous propose une analyse en trois points pour essayer de voir quel est le message, qu'est-ce qu'on peut, en première approche, je dirais, tiré de ce passage biblique. Alors déjà, moi, ce qui attire mon attention et qui ne nous aura pas échappé, c'est que dans cette déclaration, je suis celui qui suis. Voilà, c'est celle qui revient le plus souvent. Dans cette déclaration, une chose revient, c'est le « je ». c'est la double répétition du « je ». Je suis celui qui suis. En fait, il y a un premier « je » qui commence pour démarrer la phrase. En fait, il y aura un autre « je » caché. Puisque « je suis celui qui suis », ça veut dire qu'en fait, derrière, il y a un « je ». Je suis celui que je suis. On est d'accord. Deux fois le « je ». Alors, pourquoi est-ce que finalement... On parle d'efficacité dans notre monde, on parle de déficience, etc., de productivité. Pourquoi est-ce que Dieu s'amuse à se répéter ? C'est étrange, hein ? On devrait aller plus vite. Je suis, ça aurait suffi. Pourquoi est-ce qu'il se répète ? C'est étrange, ça, hein, de la part de Dieu. Alors, moi, il me semble que si il y a cette insistance sur le jeu, c'est que Dieu peut-être veut nous montrer... au cas où on en douterait, parce que je pense que beaucoup de gens doutent de l'existence de Dieu, parce qu'ils n'ont pas la foi, et même lorsqu'on se convertit, on peut se dire, mais finalement, qui est vraiment Dieu ? Est-ce vraiment un sujet, une personne ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une force ? C'est pas toujours clair hein, dans l'esprit des gens, hein. Même de chrétiens, attention. Donc, qui est-il vraiment ? Et là, Dieu insiste sur le « je ». Qui d'autre qu'une personne peut dire « je » ? Qui d'autre ? Une personne pensante, une personne qui existe, qui a une réalité, et une personne absolument consciente d'elle-même. Dieu, en répétant, enfin, en disant deux fois « je », il est en train de vous dire « mais je suis conscient de moi-même, je suis un être existant, vivant, conscient, et je l'affirme, au cas où on en douterait. » Donc c'est vraiment très important ça. C'est une façon aussi de dire que souvent on peut parler d'une chose à la troisième personne. Là, Dieu, il impose une réalité à notre conscience qu'il existe. Il est une personne. Donc, non, Dieu n'est pas une brume, une idée, une conception qui... sortirait de l'esprit humain, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une représentation de l'esprit humain. Dieu nous dit, au-delà de tout ce que vous pourriez imaginer, je suis. J'ai une réalité. Et cette réalité s'affirme sous cette forme-là. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que c'est important. Alors, vous allez me dire, c'est un allant de soi, hein, c'est une évidence que tu dis, David, mais non. Non, non, moi je pense que c'est important. Et si Dieu a répété cela, a dit « je suis celui qui suis », ce n'est pas un hasard. Alors maintenant, on va passer à la deuxième, au deuxième point qui m'intéresse. C'est toujours c'est un parallèle de la première réflexion. C'est la double répétition du verbe « être » conjugué à la première personne du singulier. « Je suis celui qui suis ». Là encore, il y a une répétition. Et on peut se dire « mais il aurait très bien pu dire « je suis » tout simplement ». Ça aurait été très profond, mais il y a une répétition. Alors, Dieu insiste également sur le fait qu'il existe, le fait qu'il est, et cette façon de se présenter à nous n'est pas habituelle. Elle est même étrange. La plupart du temps, lorsque nous nous présentons à quelqu'un, nous disons, bah, je m'appelle, alors, je suis, et c'est suivi d'un nom propre, ou d'un nom commun, ou c'est suivi d'un titre. Je suis le ministre, c'est un titre. Je suis la directrice des ressources humaines, je suis. Ouais. On précise, on qualifie, donc il y a un complément d'objet qui vient compléter le sujet, le verbe. Je suis, alors on peut aussi se présenter comme par rapport à notre statut, hein, de nos statuts dans la société. Je suis le papa de, je suis la maman de, je suis le frère de, vous voyez. On peut toujours se situer socialement, dans l'espace, par rapport à des précisions. Et souvent, même le fait d'indiquer un nom de famille, un prénom, ça peut donner une idée de d'où on vient. Hein. D'accord ? Si c'est un nom d'origine anglo-saxonne, africaine, arabe, asiatique, on arrive à situer les gens par rapport ne serait-ce qu'à leur prénom et à leur nom. Mais là, ce qui est inhabituel, c'est que Dieu ne procède pas de cette façon-là. Il nous laisse un tout petit peu désemparés. Il dit juste, je suis celui qui suit. Et on s'attendrait à ce que, après le je suis, il y ait une précision, une information qui nous amène plus loin. Mais non, je suis celui qui suit. Ouais, c'est étrange et ça nous, quelque part, ça nous met un tout petit peu, ça nous déstabilise. Alors, pourquoi est-ce que, d'après moi, Dieu procède comme ça lorsqu'il se révèle à nous? Je pense que, la première idée qui me vient, c'est que Dieu ne se laisse pas enfermer. Dès que vous qualifiez une chose, dès que vous donnez un périmètre à une chose, vous essayez de la maîtriser, c'est incompatible avec la relation à Dieu. Vous ne pouvez pas maîtriser, vous ne pouvez pas qualifier, vous ne pouvez pas envisager dans sa plénitude Dieu. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas mettre de mots qui qualifient Dieu. Ce n'est pas possible. Ça serait même une erreur, voire un péché. Et je ne conseille pas du tout d'essayer de restreindre, d'avoir une approche restrictive du nom de Dieu. Ça n'irait pas. D'accord ? Donc, je pense que déjà, ça, le ton est donné. Dieu, lorsqu'il se présente, il se présente à sa façon, avec une grande liberté, avec une grande autorité, parce que quand vous regardez la troisième version, « Je suis qui je suis ?»« Je suis qui je suis ?» Tu réponds quoi à ça ?
Oui.
Je suis qui je suis. Ça veut juste dire, mais il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de suite. Je ne cherche pas à convaincre. Je ne cherche pas à te plaire. Je ne cherche pas même à me dévoiler plus que ça, dans un premier temps. Je te dis juste, je suis qui je suis. Oui ? Socialement, ça passerait mal, ça, dans notre société. Tu rencontres quelqu'un, ben, je suis qui je suis. Essayez, vous verrez bien. Donc, non mais, moi ça me plaît, je n'essaierai pas pour moi-même. Je suis pas Dieu, hein, bien sûr, mais il n'y a que Dieu qui peut dire quelque chose comme ça. Nous, ça ferait très insolent et très antisocial ou que sais-je. Donc, si l'on s'en tient à cette révélation qui tient en une phrase assez simple, mais je dirais étonnante, surprenante, énigmatique, on pourrait se dire que il est impossible, à la lecture de cette phrase, de cette déclaration, il est impossible de se saisir de toute la réalité de Dieu. C'est impossible. Et je termine par rapport au fait que c'est inhabituel et que ça nous déroute un tout petit peu. Dieu aurait pu également dire « Je suis celui qui fait ceci » ou « qui fait cela ». Il n'y a pas le verbe « faire ». Nous voulons souvent faire. Et nous nous présentons comme celui qui a fait. Je suis celui qui a fait construire tel immeuble. Je suis celui qui est à l'origine de tel logiciel, telle application. Je suis celui ou celle qui est à l'origine de tel exploit sportif, etc. Je suis celui qui a fait. J'ai fait ceci. Il n'en est pas question pour Dieu. Dieu ne dit pas ce qu'il a fait. Oui. Là encore, c'est intéressant parce que il pourrait revendiquer et dire « J'ai fait, hein, je suis celui qui a fait les cieux et la terre. » Non, dans la révélation qui est faite à Moïse, là, il n'est pas question de tout ça. Et c'est merveilleux. Dieu ne veut pas dire, il ne veut pas vous le dire ce qu'il a fait. Il s'en moque de vouloir dire ce qu'il a fait. Peut-être qu'il a fait des choses, mais ça peut se voir plus tard. Mais dans un premier temps, nous devons le rencontrer par rapport à « Je suis celui qui suit ». Pas par rapport à ce qu'il a fait. Sinon, il aurait procédé autrement avec Moïse. Donc il ne se donne aucun titre, etc., aucun nom propre. Il ne dit pas ce qu'il a fait, et voilà. Alors, je passe à la dernière partie, oui, c'est court, de cette réflexion, et on peut se dire, mais pourquoi cette volonté de sobriété de la part de Dieu ? Pourquoi est-il si sobre? Vous voyez, c'est... il aurait pu développer. Là. C'est vraiment une révélation minimaliste, à nos yeux, bien sûr. Donc, dans sa façon de se présenter aux hommes. Alors moi, je me suis dit que ce nom de Dieu, qui nous fait connaître, est non seulement énigmatique, mais aussi insaisissable. Il est incomparable. Il est non réducteur, ce nom de Dieu-là. Non catégorisable, non résumable. Et on pourrait se demander, donc, à la lecture de ce verset, ce verset donc 14, « Je suis celui qui suis », on pourrait se dire, mais alors, qu'est-il réellement, après avoir lu ça? Alors, qu'est-il réellement? Que savons-nous de plus sur lui? Pas grand-chose. N'y a-t-il réellement aucun autre indice pour connaître Dieu? On peut se dire, mais je suis déçu. Dieu se révèle, pour une fois qu'il se révèle et qu'il parle à Moïse et qu'il fait un legs à l'humanité pour la suite des temps, et nous avons un « je suis celui qui suis ». On n'a rien d'autre. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il y a lieu de se poser toutes ces questions-là? Est-ce qu'on devrait être déçu de ce que Dieu a révélé? Est-ce qu'on devrait être frustré? La volonté de Dieu n'est-elle pas de se présenter comme le « je suis » Pourquoi vouloir toujours compliquer les choses? Vous voyez, ne devrait-on pas plutôt chercher à connaître par ce seul, enfin, de connaître Dieu par le nom qu'il nous a révélé, par ce nom, son nom, ce nom-là qu'il nous a révélé. N'est-ce pas une façon pour Dieu de nous inviter à le rechercher? Vous savez, si l'on se dévoile immédiatement, il y a un peu de fadeur, hein, vous voyez, à dire, moi quand je rencontre quelqu'un et qu'il commence à me faire le... moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. À la fin, vous savez, on n'a plus envie d'échanger parce que c'est à sens unique. Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une recherche, il faut qu'il y ait des pauses même dans l'échange, une respiration. Et là, je trouve que cette façon de nous aborder de la part du Seigneur nous invite finalement à dire, mais alors Seigneur, qui es-tu? Ça nous invite à nous poser. Mais qui es-tu alors? Je voudrais en savoir plus. Ça m'intéresse d'en savoir plus. Tu as donné une révélation à Moïse, mais tu peux très bien m'apporter davantage. Tu peux me faire aller plus loin, ne serait-ce que me faire comprendre la profondeur de ceci. Donc on pourrait y passer toute une vie, hein, je crois, hein, à prier, à demander à Dieu de bien nous faire comprendre, parce que je pense qu'il y a une dimension spirituelle qui n'est pas simplement... l'expression écrite ou verbale. Je pense qu'il y a une dimension spirituelle dans cela. Si on reçoit la grâce de percevoir spirituellement ceci, je pense qu'il se passe autre chose. Hein. Bref. Voilà. Donc, n'est-ce pas une volonté de sa part de ne pas se laisser enfermer par une représentation humaine? N'est-il pas en train de nous dire qu'il nous est impossible de le définir autrement que par le nom qu'il nous révèle? N'est-ce pas finalement une révélation suffisamment extraordinaire? Pourquoi chercher à ajouter si Dieu lui-même ne le fait pas? Donc, alors, vous allez me dire, mais David, attention, hein, tu n'as pas bien lu ta Bible. Si, je l'ai bien lu. Il y a dans la Bible bien d'autres noms de Dieu. Mais, il me semble que là, dans ce verset-là, et à cette étape historique, il y a eu une révélation de façon solennelle et extraordinaire. Les autres noms de Dieu, sauf erreur de ma part, ça ne s'est pas passé comme ça. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait des versets qui disent « Voilà, Dieu s'est révélé de telle et telle façon ». Maintenant, peut-être que je me trompe, hein, mais il y a d'autres noms de Dieu, et on va les voir. Alors, je vous laisse passer en revue les autres noms. On est sur des noms de Dieu qui commencent par L. Alors, dans ma petite note ici, Elle, sous ce nom, Dieu est nommé plus de 3600 fois dans la Bible. Elle. Lorsqu'il désigne le nom de Dieu unique et incomparable, il s'accompagne toujours d'une épithète qui souligne un aspect, une vertu du même Dieu. Donc ici, vous voyez, Dieu unique et incomparable, elle, Dieu unique et incomparable. Il s'accompagne toujours d'une épithète. Alors, ça pourrait être Dieu d'Israël. Oui, Dieu d'Israël. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit. Si Dieu n'est que le Dieu d'Israël, ça peut poser un problème. D'autre part, Dieu jaloux. Attention. Déjà, jaloux, il faut l'interpréter dans un contexte et d'un point de vue, d'un certain point de vue. C'est par rapport notamment aux idolâtries, etc. Mais Dieu n'est pas que jaloux. C'est réducteur. C'est réducteur. Si dans ma vie quotidienne, j'entretiens des relations avec Dieu et que mon Dieu, c'est le Dieu jaloux, je ne pense pas que je fasse bonne route. Il n'est pas que le Dieu jaloux. Dieu qui apparaît. Dieu n'apparaît pas tout le temps. Vous voyez ? Donc, c'est assez simple à comprendre. Bon. Il y a des noms de Dieu qui existent. Ils sont intéressants. Ils sont éclairants. Et bien entendu, il est intéressant de se les approprier. Mais attention de ne pas s'enfermer par leur utilisation, par une utilisation restrictive. Alors, j'ai une autre liste ici, où on a des noms de Dieu qui sont composés et commencent par Yahvé. Alors il y a Yahvé Jiré, par exemple l'Éternel pourvoira. Alors Yahvé Rapha, l'Éternel te guérit. L'Éternel te guérit. Alors Yahvé, c'est le nom le plus employé dans l'Ancien Testament, 6519 fois. Il est traduit en français par l'Éternel. Donc dans la Bible, en français courant, je m'imagine que Yahvé est traduit par l'Éternel. D'ailleurs, il me semble avoir lu sur Internet, hier, en préparant ceci, que « Je suis celui qui suis » a été contracté en Yahvé. Yahvé, c'est une contraction, une réduction de « Je suis celui qui suis ». Mais la formule originale, c'est n'est pas Yahvé, c'est je suis celui qui suis. Et moi, c'est ça qui, c'est ce qui m'intéresse. Yahvé, Saboa, Dieu des armées. Là encore, si je me représente un Dieu guerrier, un Dieu des armées, uniquement dans ma relation à lui, dans ma relation aux autres, etc., ce n'est pas tenable, on est d'accord. Donc, avoir dans son répertoire les noms de Dieu qui le caractérisent, qui nous donnent une dimension de ses vertus, etc., c'est intéressant. Mais moi, je pense que il faut revenir à « je suis celui qui suis ». Je pense qu'il faut revenir là-dessus. Parce que là, c'est tellement ouvert, c'est tellement immense, infini, c'est insaisissable et il n'y a pas de discussion. Il y a la révélation. Il y a une révélation. Et c'est ce que je vous invite à faire. Je vous invite à vous saisir de cette révélation pour vos prières qui vont suivre, pour votre parcours avec Dieu et Jésus dans les temps qui viennent. C'est d'essayer de vous saisir de « je suis celui qui suis ». C'est ça qui est intéressant. Changer un tout petit peu d'axe pour vous remettre sur le nom originel de Dieu tel qu'il l'a révélé. Alors, je vais terminer. Pourquoi est-ce qu'il pourrait être risqué de, de s'appuyer sur des noms de Dieu qui sont réducteurs, comme ceux que je viens de présenter là? Déjà, on l'a dit, c'est que nul ne peut réduire l'identité de Dieu. Elle est insaisissable. Mais aussi, ce serait une façon de notre part, d'imposer à Dieu une dimension, enfin d'imposer dans notre relation à Dieu une dimension de son identité. Seigneur, moi, en fait, tu es un Dieu d'amour. Ah, l'amour. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui... Mais c'est pas ça l'amour, hein, de toute façon. Hein. Ah, je, oh Seigneur, tu es le Dieu de la guérison. Mais pourquoi vous, quand vous, lorsque vous vous adressez à Dieu, lorsque vous êtes dans une relation avec Dieu, vous n'attendez que la guérison? C'est ça le motif, c'est ça la condition de votre relation. Vous voyez, tout de suite, sans s'en rendre compte, si on s'approprie, qu'on se focalise sur une dimension des vertus de Dieu, il y a un dérapage probable à venir, quasiment certain. Parce que ça veut dire qu'on détourne l'identité de Dieu à son profit, on le réduit, on en fait une chose. Dieu n'est pas une chose. Dieu, c'est je suis. Donc, c'est intéressant de prier Dieu, Seigneur, tu es. Il y avait Jiré, il y avait Rapha. C'est intéressant. Mais attention, cela ne vous appartient pas. Dieu s'appartient lui-même. Il ne vous appartient pas. Ça, c'est intéressant. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque Dieu s'est présenté, il a voulu être sobre dans sa façon de faire et aller plus loin, c'est-à-dire essayer de le qualifier, essayer de le définir. Ça serait un peu outrepasser nos droits. Je pense qu'il faut rester aussi dans l'adoration. En fait, si vous voulez, l'idée de ce message, c'est aller plus loin dans l'adoration. Je ne l'ai peut-être pas dit en introduction, mais si vous voulez adorer Dieu, présentez... vous à lui en disant « Seigneur, je veux adorer, je suis celui qui suis. » C'est vraiment dans cette idée que j'ai eu à cœur de vous présenter ce message. C'est vraiment pour qu'on puisse s'élever, qu'on puisse aller au-delà de nos préoccupations, de nos besoins, et de dire « Seigneur, lorsque je te prie, je ne te prie pas parce que tu pourvois, je ne te prie pas parce que tu guéris. Oui, oui, je sais que tu guéris et que j'ai besoin. C'est pas pour cette raison que je t'invoque à présent. Je t'invoque parce que je veux adorer, je suis celui qui suis. » C'est vraiment dans cette idée que je vous présente ce message. Voilà. La conclusion de ce message, c'est que nous avons à disposition une extraordinaire révélation de Dieu. Cette révélation est une révélation ouverte, c'est-à-dire une qui nous permet finalement de nous saisir, de nous rapprocher des dieux de toutes les façons, pas simplement par une ou quelques-unes de ces dimensions, de ces facettes ou de ces caractères. Nous avons une révélation qui nous élève au-delà de nos frustrations, au-delà de nos besoins matériels légitimes. Hein, je n'ai rien contre, mais qui nous permet de nous élever, de nous dire Seigneur, écoute. Aujourd'hui, la prière que je vais te formuler, c'est une prière qui est gratuite. C'est une prière d'adoration. C'est une prière de contemplation. C'est une prière qui veut t'honorer et qui veut aller à la source de ce que tu es. Je suis celui qui suis. Donc, en conclusion, c'est un cadeau que Dieu nous a fait, de nous révéler son nom. C'est un nom merveilleux. Je regrette, même en ce qui me concerne, de ne pas avoir suffisamment utiliser ce nom pour m'édifier. Eh bien, maintenant que j'ai été attentif à cette révélation, plus attentif parce que elle est passée un peu vite. Hein, je crois que je vais m'appesantir dessus dans mes prières et je vous souhaite également de pouvoir grandir. À l'appui de cette merveilleuse parole. Notre Dieu. Donc, prions peut-être, je fais une prière générale pour moi et pour vous, que le Seigneur puisse nous révéler son nom, nous révéler la profondeur de son nom. Seigneur, merci beaucoup pour... parce que tu es un Dieu qui nous parle, tu es un Dieu qui se révèle, tu t'es révélé de plusieurs façons. Dans les temps anciens, tu t'es révélé aux anciens, aux patriarches, et puis dernièrement, tu t'es révélé au monde entier. Par ton Fils Jésus-Christ. Mais toutes ces révélations sont cohérentes les unes avec les autres et nous permettent d'avancer, nous permettent de rentrer dans une intimité plus grande avec toi. Merci beaucoup pour ce nom merveilleux que tu nous as révélé. Nous voulons nous en saisir, nous voulons le chérir, vous voyez. Nous voulons le chérir, nous voulons le regarder, le contempler comme un trésor, et nous voulons qu'il puisse nous amener plus vers toi, nous amener joie, paix, nous amener félicité hein, spirituelle, et aussi des expériences spirituelles avec toi. Soyez bénis et que le Seigneur soit remercié.